Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
À la fin de mes études au séminaire, j'étais évidemment déterminé à faire l'exposition de la Bible. J'avais vu mon père le faire. Il était la plus grande influence exercée sur ma vie. Naturellement, parce que j'avais grandi sous son ministère. Je l'entendais prêcher dans le livre de Jean, le livre des Actes, le livre des Romains et un nombre d'autres livres. Je suis allé au séminaire pour apprendre à faire l'exposition de la Bible. J'étais l'étudiant du docteur Roskup, du docteur Thomas. Quand j'étais à l'école de théologie de Talbot, je m'intéressais particulièrement à l'enseignement du docteur Charles Feinberg. Je ne connaissais pas encore les docteurs Roskup ou Thomas avant d'être allé au séminaire, mais je connaissais le docteur Feinberg et je savais son attachement au texte des Écritures. Mon père et moi étions d'accord pour que ce soit lui, l'homme qui influence nos vies, et il a eu un énorme impact dans ma vie. Je suis donc sorti du séminaire avec l'engagement de faire l'exposition des Écritures. Et c'est ce que j'ai commencé à faire quand je suis arrivé ici, en 1969, ici, dans ce bâtiment, dans lequel vous êtes assis. C'est ici que tout a commencé. À l'époque, le sol était en linoléum, avec un jeu de palais, et les murs étaient là où sont les colonnes. Et vous savez, on rangeait les chaises pour organiser un dîner de spaghettis ici. C'était ce genre de local. Et nous avons commencé à grandir à partir de là. Et pendant toutes ces années, j'ai essentiellement fait l'exposition de la Bible. Je pense que de plusieurs façons, cela s'est culminé quand j'ai fait la Bible d'études. En quelque sorte, je crois que vous pouvez désigner cette période comme point culminant des années de l'exposition de la Bible, incorporant chaque détail que je pouvais de mes études personnelles au fil des années. Avec l'aide de la faculté du séminaire, certaines facultés du collège et certains de mes amis engagés dans le ministère Grace to You, rafistolant tout ce que je pouvais réunir. Même si je pouvais faire l'exposition d'autres livres dans l'avenir, si le Seigneur me donne l'opportunité de le faire, particulièrement dans l'Ancien Testament, c'était comme le pinacle. Parce que ce que j'ai fait ne signifie d'aucune façon que j'en ai terminé. Je continuerai pour le restant de ma vie. Mais j'ai l'impression que cet exercice, particulièrement ces 3 années que j'ai passées à travailler sur la Bible d'études, m'ont donné la compréhension la plus complète des Écritures que je n'avais jamais eue. Et à cause de cela, plus récemment, j'ai un peu étendu ma lecture et j'essaie de lire plus dans le domaine historique. Pour toutes les années, et cela reste vrai maintenant encore, jusqu'à un certain niveau, pour toutes les années de ma vie, jusqu'à très récemment, ma focalisation était sur les Écritures, à tel point que je lisais toujours la Bible, j'étudiais la Bible, j'étudiais le texte des Écritures, je lisais les commentaires, je lisais la théologie qui se rapportait à ma compréhension de l'Écriture, afin de continuer à construire cela. Il me semble que ces dernières années, et particulièrement l'année dernière, je me suis de plus en plus intéressé à combler les vides dans ma compréhension de l'histoire. J'ai commencé donc à lire des livres, particulièrement les livres qui peuvent refléter quelque chose de l'impact des gens qui étaient le pivot du changement de l'histoire. J'ai lu un petit livre récemment. J'aime quand je peux trouver quelque chose de condensé. Je suis en train d'avaler de grands volumes, comme la biographie de William Tyndall, rédigée par Daniels, un érudit de Tyndall, à Yale. Et c'est un tome volumineux, rempli de choses qui n'intéressent vraiment personne, mais il faut poursuivre la lecture pour parvenir à ce qui vous intéresse. Et je lis ces choses-là, mais j'essaie de lire aussi des choses condensées, parallèlement, afin d'avoir un aperçu de comment Dieu agit dans l'Église. Il y a un petit livre écrit par Christopher Catherwood, intitulé « 5 pionniers de la Réforme ». Je vous le recommande. C'est une publication de Christian Focus. Il publie de nombreux livres du docteur May Huss. C'est une excellente maison d'édition écossaise. Et il a pris les 5 pionniers de la Réforme. ceux qui sont familiers et que vous pouvez connaître, Calvin, Luther et Augustin, et il présente Cranmer et Zwingli de façon très condensée. C'est un historien très remarquable, Christopher Catherwood. Il a probablement rédigé la meilleure histoire des Balkans, et il enseigne l'histoire des Balkans à Cambridge et d'autres endroits. Et c'est donc un fin érudit. Il est le petit-fils de Martin Lloyd-Jones. Nous avons déjeuné ensemble dernièrement. Je l'ai remercié pour son petit livre, parce qu'il distille quelque chose concernant ces hommes. En même temps, je lis un livre intitulé « Evangelical Eloquence »,« L'éloquence évangélique », par R. L. Dabney. Je pense que c'est publié par Truth Publication, si je me souviens bien de la couverture. Et c'est une série de cours qu'il avait dispensés sur la prédication. Maintenant, R. L. Dabney a vécu il y a 100 ans environ, et pour les réformateurs, bien entendu, il faut remonter aux années 1500. Parallèlement, j'ai lu un livre que je vous recommande, et je vais peut-être faire un survol de ce livre ce matin, « The Legacy of Sovereign Joy », l'héritage de la joie souveraine, par John Piper. John Piper est un excellent biographe, particulièrement lorsqu'il s'agit de personnes qu'il aime vraiment, à l'instar de Jonathan Edwards, ou dans le cas de « The Legacy of Sovereign Joy ». Il fait une étude d'Augustin, de Luther et de Calvin, et décrit les dures réalités de la vie. Il y a des éléments très humains qui caractérisent ces hommes, mais il s'intéresse aux éléments vraiment les plus humains chez eux. Mais ce que je comprends de ma lecture est que cela converge vers le point où ces gens ont commencé à changer l'histoire de l'Église. Cela a été fonction d'une percée dans leur compréhension de l'Écriture. C'est né par l'exégèse, c'est né d'un engagement à l'exposition. Et cela est une grande source d'encouragement pour moi, parce qu'il ne reste que des brides de nos jours. Aujourd'hui, si vous voulez influencer la société, vous devez mettre la Bible de côté. Les gens n'arrivent pas à s'identifier à elle. Il faut leur parler en termes de culture et leur raconter les histoires qui les intéresseront. Il faut tenir un langage pertinent, des paradigmes pertinents et avoir des expériences pertinentes, etc., etc., etc. Ce sont des personnes qui, en s'ajustant au monde, finissent tout simplement par faire partie du monde et ne font aucune différence. Alors retournons vers ces hommes, grâce auxquels l'Église avait largement été changée. Des hommes qui avaient essentiellement été des pionniers de cette forme de chrétienté à laquelle nous appartenons tous aujourd'hui, à l'encontre de ce dont ils s'étaient rebellés, et nous réalisons qu'ils étaient essentiellement des exposants. Personne ne le ressort autant que Piper. J'ai lu le livre 2 fois. Parce que je voulais vraiment m'approcher de ce qu'il dit. C'est très bien fait, et c'est une information très synthétisée. Alors cela m'a, en quelque sorte, poussé, ma discussion avec Dick, à croire que nous devons mettre l'accent sur les hommes qui viennent au Masters Seminary, afin qu'ils comprennent que ce que nous essayons de faire avec vous est essentiellement de faire de vous des exposants de la parole de Dieu. Voilà ce que nous essayons de faire. Nous ne voulons pas que vous fassiez autre chose. Et toute autre chose que vous pourriez faire si vous deviez sortir et vous tenir sur une chaire ou dans une salle de classe, si vous faites autre chose que l'exposition de la parole de Dieu, vous aurez en quelque sorte prostitué votre éducation, votre vocation. Je ne sais pas comment le dire plus fort. C'est ce que nous vous enseignons à faire, parce que c'est ce que nous croyons que Dieu veut. Il veut que sa parole soit proclamée. C'est aussi simple que 1 Timothée 4:2. Prêche quoi ? La parole. Si vous êtes un pasteur, vous êtes un prédicateur par-dessus tout. Voilà ce que vous êtes. Vous n'êtes pas un entrepreneur. Un autre de ces livres ridicules de l'association Willow Creek est tombé sur ma table ce matin, et il est intitulé « Comment changer votre église » ou quelque chose comme ça, sans la tuer. Voilà le titre de ce livre. Je l'ai parcouru, et j'ai cherché la bibliographie pour voir les sources, et elles étaient toutes séculières. Toutes les ressources pour changer d'église venaient des ressources séculières. J'ai cherché un index biblique, et il n'y en avait aucun. Il n'existe pas. C'est une grave prostitution du dessein de Dieu pour l'église et le ministère. Si vous êtes un pasteur, vous êtes un prédicateur. Vous n'êtes pas un entrepreneur. Vous n'êtes pas un directeur général. Vous n'êtes pas un présentateur d'un jeu de quiz. Vous n'êtes pas un aboyeur de carnaval. Vous n'êtes pas un commerçant. Vous êtes prédicateur de la parole de Dieu. Voilà ce que vous faites. Et je vais le dire très simplement. Vous le ferez pour le reste de votre vie, si vous restez fidèle à votre ministère. Comme le dit John Piper, vous êtes un homme totalement dévoué à manifester la gloire de Dieu à travers l'exposition de la parole de Dieu. C'est ce que vous faites. J'ai dit à Dick il y a quelques jours que nous avons besoin d'une nouvelle devise ici. Quelque chose de ce genre. J'oublie ce que j'ai dit, mais quelque chose comme « Nous formons les hommes pour qu'ils manifestent la gloire de Dieu à travers l'exposition de l'Écriture. » C'est ce que nous faisons. Nous voulons présenter Dieu à travers l'enseignement, parce que Dieu est révélé dans l'exposition. En fait, j'irai jusqu'à dire que la plus grande apologétique de l'Écriture, c'est la prédication des Écritures, parce qu'elles révèlent Dieu de façon très évidente. Elles sont sa propre défense. La parole prêchée joue le rôle de médiateur entre les hommes, la majesté de Dieu et la gloire de Christ. Alors, pendant que nous en parlions sur notre chemin, en allant au bureau d'accréditation pour l'accréditation de l'école et du séminaire, ce qui est toujours un défi, parce qu'ils n'y saisissent rien, ils n'en savent rien, ils ne nous comprennent pas, parce qu'ils ne sont pas des chrétiens. Ils sont seulement une commission qui a, vous savez, des standards du monde, et j'ai l'opportunité d'aller les voir occasionnellement. Je suis le seul prédicateur qui leur parle, et ils ne sont pas habitués à entendre un prédicateur. Mais j'essaie de leur prêcher, en douceur quand même, et nous avons passé un bon moment. Mais en y allant, cette fois, j'ai dit à Dick, « Tu sais, j'aimerais dire fermement ceci aux hommes, mais je ne sais vraiment pas comment le faire. » Il a répondu, « Eh bien, entre dans le bureau, et dis tout ce qui te passe par la tête. J'aimerais donc que vous sachiez que je l'ai par écrit, et cela fait plusieurs semaines que j'y pense. » Hier soir, pendant mon vol de Vancouver pour rentrer ici, je l'écris, et une fois à la maison, j'ai passé environ 3 ou 4 heures tard hier soir en essayant de le rassembler. Commençons maintenant. Je vais vous communiquer quelques petits mots. Ils commencent tous par P, afin que vous puissiez savoir quand je passe au point suivant. Le premier mot, perspective, c'est mon regard sur le ministère de la prédication, et essentiellement, pour revenir à ce que j'ai dit, si vous êtes un pasteur, vous êtes plus un prédicateur qu'autre chose. C'est ce que vous faites. Et la première chose est d'avoir une perspective sur cette prédication. Je pense que c'est très important. Je ne sais pas si vous avez l'opportunité d'écouter beaucoup de prédications. J'étais en vacances, et pour la première fois je n'ai pas prêché pendant 3 semaines, et j'ai écouté d'autres prédicateurs, certains en direct et d'autres à la télévision. Et pendant que j'écoutais, je me rappelais combien le tableau est lugubre. Vous avez le genre de prédication quasi-maniaque de charismatique fanatique qui ne saurait être classé comme prédication du point de vue biblique. Et vous avez le style homilétique où il semble que l'important dans la prédication, c'est d'avoir un bon plan. Mais ce que vous n'avez pas, ce sont les deux choses que toute prédication doit contenir, et je vais vous en parler très simplement. Une bonne prédication est à la fois profonde et transcendante. J'ai dit ceci à notre Église. Une bonne prédication est à la fois profonde et transcendante, et la plupart des prédications que j'écoute ne répondent à aucun de ces critères. Ce n'est pas profond et ce n'est pas transcendant. Elles ne descendent pas et ne m'élèvent pas. C'est une ligne plate quelque part au milieu. En tant que prédicateur, vous devez être profond. Ceci signifie que vous devez rentrer profondément dans le texte, profondément dans la vérité de la parole de Dieu, pour en creuser les vérités immenses qui y sont logées. Ensuite, ayant creusé dans les profondeurs de l'Écriture et révélé la merveille et la majesté et la gloire de Dieu dans la présentation de cette vérité, vous pouvez élever votre congrégation afin que les membres sachent ce qu'est l'adoration. Si votre prédication n'est pas profonde, elle n'est pas transcendante, le comprenez-vous. Pire encore, si elle est définie par la culture et centrée sur l'homme, elle n'est ni profonde ni transcendante. Maintenant, si vous devez aller en profondeur, dans la vérité divine, pour élever les gens dans la louange, pour aller dans la profondeur de la vérité divine et dans les hauteurs de l'adoration, il vous faut un seul instrument. Qu'est-ce que c'est? La Bible, c'est le seul instrument nécessaire. Il n'y en a pas d'autre. Votre intuition n'est pas utile, ni les visions et prophéties de qui que ce soit. Les Écritures sont primordiales. Dieu a révélé et préservé la vérité divine dans un livre dont il est l'auteur. Vous êtes ici pour apprendre à creuser soigneusement dans ce livre, afin de dévoiler à vos congrégations la majesté de Dieu, révélée dans les profondeurs de la vérité biblique, qui amènera votre congrégation à s'élever aux hauteurs, par des louanges pour honorer Dieu. D'accord, c'est ce que nous faisons. La vérité divine ne se trouve pas dans une église. C'était le combat de Luther. Elle ne se trouve pas dans un évêque. Vous connaissez l'église catholique romaine, ceux qui avaient vraiment dévasté Luther, et la raison pour laquelle il fouillait les Écritures en quête d'une réponse, ce qui l'avait bouleversé. C'était le fait que l'Église avait transvasé l'Écriture, la rendant comme une source de révélation secondaire. La vérité divine ne se trouve pas dans une Église, elle ne se trouve pas dans un évêque, elle n'est pas dans un pape, elle ne se trouve pas dans une dénomination, elle n'est pas dans une expérience, elle n'est pas dans l'intuition, elle n'est pas dans l'extase. La vérité divine, toute la vérité divine, est renfermée dans un livre, la Bible. Et Martin Luther avait été convaincu que Dieu ne parlait que dans ce livre. C'était absolument révolutionnaire. C'est ce que Dieu avait dit dans ce livre qui prévaut sur le jugement à l'Église, et non le contraire. Ce seul livre, Luther en était convaincu, livrait la vérité qui sauve, la vérité qui sanctifie. Et à ce moment précis, ce livre parlait, il parlait avec autorité. Maintenant, c'est la raison pour laquelle je me bats si fermement contre la question de la création et de l'évolution. Voilà pourquoi c'est une malédiction sur l'Église évangélique que certaines institutions évangéliques croient en une forme d'évolution. Comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, 100 collèges sur 106 de la coalition évangélique croient en l'évolution. Cela signifie qu'ils ne croient pas Genèse 1 et 2, parce qu'il n'y a rien du point de vue de l'exégèse dans Genèse 1 ou 2 pour indiquer autre chose que le fait que Dieu a créé l'univers entier en 24 heures jours, en 6 jours pour être exact. Une fois que vous réfutez l'autorité de Genèse 1 et 2, vous sortez le cheval de l'écurie, n'est-ce pas? Pour le reste, nous le verrons dans le texte. Bien, Luther était convaincu que Dieu ne parlait que dans le livre, pas par le pape, pas par l'évêque, pas par l'Église, pas par une institution de qui que ce soit, ou des expériences, des extases, des prophéties ou autre chose. Piper écrit ceci. Ce qu'il y a de nouveau chez Luther, citant ainsi Eiko Obermann. Ce qu'il y a de nouveau chez Luther, c'est la notion d'obéissance absolue aux Écritures, contre toute autorité, fût-elle le pape ou les conseils. Voici ce qui était révolutionnaire. Alors, quand nous pensons à Luther, nous pensons à la doctrine de la justification. Avant que Luther n'arrive à la justification par la grâce, au moyen de la foi, il était arrivé à un niveau où il croyait que les Écritures étaient l'unique et l'absolue autorité. On est d'accord? Alors, dans une certaine mesure, sa doctrine des Écritures était plus importante que sa doctrine du salut. Si vous n'y êtes pas dès le début, alors vous n'êtes pas capable d'accepter avec autorité la Bible et poser les limites. En d'autres termes, Piper écrit, « La parole autoritaire de Dieu, qui sauve et sanctifie, nous est communiquée dans un livre. Les implications de cette simple observation sont énormes. » En 1539, en commentaire du psaume 119, Luther disait, David dit dans ce psaume qu'il ne lira, ne pensera, ne parlera, n'écoutera, ne lira constamment rien d'autre que la parole de Dieu et ses commandements, jour et nuit. Car Dieu veut nous donner son esprit uniquement par la parole externe. Cette expression est extrêmement importante. La parole externe, c'est le livre, c'est-à-dire extérieur à nous. L'esprit de Dieu qui sauve, sanctifie, illumine. Luther affirme, viens-nous par cette parole externe. Luther l'appelle, écrit Piper, la parole externe pour insister sur son objectivité, sur le fait qu'elle est fixe, hors de nous, et donc immuable. C'est un livre. Ni la hiérarchie ecclésiastique, ni l'extase fanatique ne peuvent la remplacer ou la modifier. Elle est externe comme Dieu. À prendre ou à laisser, mais vous ne pouvez pas la changer. C'est un livre avec des lettres fixes, des mots et des phrases. Luther dit avec une force retentissante, en 1545, l'année avant sa mort, je cite, « Que celui qui veut entendre Dieu parler lise les saintes Écritures. » Il avait dit plus tôt, lors de ses enseignements sur Genèse, encore une citation de Luther, « Le Saint-Esprit lui-même est Dieu, le Créateur de toutes choses, et l'auteur de ce livre. » Fin de citation. Et l'une des implications du fait que la parole de Dieu nous est adressée dans un livre est, selon Piper, que le thème de ce chapitre est le pasteur et son étude, pas le pasteur et sa séance, pas le pasteur et son institution, pas le pasteur et ses religieux. Le multiperspectivisme, peu importe ce que c'est, la parole de Dieu qui sauve et sanctifie de génération en génération, dit Piper, est préservée dans un livre, et par conséquent, au centre de l'œuvre de chaque pasteur doit se trouver ce livre. Appelez cela la lecture, la méditation, la réflexion, la cogitation, l'étude, l'exégèse. Appelez cela comme vous voulez. Une grande partie, et la portion centrale même de votre travail, consiste à trouver la pensée de Dieu dans le livre et ensuite à la proclamer dans la puissance du Saint-Esprit. C'est de cela qu'il s'agit. C'est votre raison d'être ici. Nous allons vous aider à pouvoir le faire. Luther était un grand amoureux du Saint-Esprit, et son exaltation du livre comme étant la parole externe ne minimisait d'aucune façon le Saint-Esprit. Au contraire, cela élevait le grand don de l'Esprit à la chrétienté. En 1533, Luther avait dit « La parole de Dieu est la chose la plus grande, la plus nécessaire et la plus importante dans la chrétienté. Le voyez-vous ? Vous lisez cela et vous dites « Maintenant je sais pourquoi il pouvait se consacrer à ce qu'il avait trouvé, n'est-ce pas ? Sans la parole externe, il ne serait pas possible de reconnaître un esprit d'un autre. En plus, la personnalité objective du Saint-Esprit se perdrait dans une marée d'expressions subjectives. C'est une forte affirmation. Le fait d'avoir un livre externe et le fait que nous soyons limités à ce livre externe définit clairement la personnalité du Saint-Esprit, sans la subjectivité bizarre dont le Saint-Esprit est devenu victime par ceux qui le définissent en dehors ou au-delà des pages de l'Écriture. En fait, Piper disait, chérir le livre impliquait pour Luther que le Saint-Esprit est une personne qui doit être connue et aimée, pas un bruissement que l'on doit ressentir. Une autre objection à l'emphase de Luther sur le livre, c'est qu'elle minimisait la parole incarnée, Jésus-Christ lui-même. Luther dit que le contraire est vrai, au point où la parole de Dieu est déconnectée de la parole externe. À ce point, la parole incarnée, le Jésus historique, devient un nez de cire façonné par les préférences de chaque génération. Avez-vous vu le programme de Peter Jennings à ABC, La quête du vrai Jésus? Vous ne pouvez pas trouver le vrai Jésus si vous n'utilisez pas la Bible. Ce n'est qu'un nez de cire. Vous pouvez lui donner la forme qui vous plaît, n'est-ce pas? S'ils ne trouvent pas Jésus, c'est parce qu'ils ne vont pas dans la Bible, qui est le seul endroit où le trouver. Alors ce qu'il dit, c'est qu'il faut avoir une vision fixe des Écritures, en tant que seule et unique autorité qui déclare la vérité divine de la part de Dieu. C'est le seul endroit où vous pouvez réellement comprendre et honorer l'Esprit, et le seul endroit où vous pouvez comprendre et honorer le Fils. Le comprenez-vous? Bien sûr, il dit. Luther avait une arme pour sauver la parole incarnée de la vente au marché de Wittenberg. Il chassa les changeurs d'argent, les vendeurs d'indulgence, avec le fouet de la parole externe, le livre. Quand il posta ses 95 thèses, le 1er octobre 1517, la thèse stipulait, et je cite, « Il faut enseigner aux chrétiens que celui qui, voyant son prochain dans l'indigence, le délaisse pour acheter des indulgences, ne s'achète pas l'indulgence du pape, mais l'indignation de Dieu. » Fin de citation. Ce coup est tombé du livre, de l'histoire du bon samaritain, et du deuxième grand commandement dans le livre, la parole externe. Sans le livre, la parole incarnée serait le jouet en argile de tout le monde. Écoutez, les gens qui n'acceptent pas un livre absolument inhérent, inspiré et autoritaire donnent à Jésus la forme qui leur plaît. Ils peuvent utiliser, qui sait, ils peuvent adopter une approche libérale du Nouveau Testament en essayant de recréer le Jésus historique. Ce n'est qu'un jouet en argile avec lequel ils façonnent leur vie, en réfutant les Écritures. L'Église a besoin de voir le Seigneur Jésus-Christ. Le seul moyen de le voir, c'est dans la parole. Ainsi donc, Piper dit, « En voici d'immenses implications pour le pasteur. Les pasteurs sont essentiellement des commissionnaires de la parole de Dieu transmise dans un livre. Voilà ce que nous faisons. Nous sommes commissionnaires de la parole de Dieu transmise dans un livre. Nous sommes à la base des lecteurs, des enseignants, et des prédicateurs du message contenu dans le livre, et tout cela pour la gloire de Dieu, l'honneur de l'Esprit, et l'honneur du Fils en qui ils sont vraiment révélés et connus. Ainsi, lorsque le peuple nourrit sa congrégation de la parole de Dieu et de rien d'autre, il demeure fidèle à son appel. Et quand il va en profondeur dans la parole, quand il cherche la bonne viande, il dédaigne ce qui est plat, trivial, superficiel et humain. Il rejette les formules. Il ignore la sagesse humaine, comme l'apôtre Paul, qui ne prêchait pas selon la sagesse humaine, les discours éloquents. Il sait ce que Jésus avait dit dans Jean 17, 17. « Sanctifie-les par ta vérité. ta parole est la vérité. Il savait que c'est la parole seule qui peut séparer les gens du péché et les amener à Dieu. Et parce qu'il amène sa congrégation en profondeur dans la parole, le pasteur est donc capable de les élever, et les gens se perdent dans l'émerveillement, l'amour et la louange, parce qu'ils ont saisi les réalités profondes de la majesté de Dieu, qui sont révélées dans la compréhension d'une grande vérité. Avez-vous lu le livre de David Wells, intitulé « No place for church », pas de place pour la vérité? C'est un livre vraiment excellent qui dit « C'est ce Dieu majestueux et saint dans son être qui a disparu du monde évangélique moderne. » Leslie Newbegin, dans un article du Christianisme Aujourd'hui, en 1996, dit « J'ai soudainement vu que l'on pouvait utiliser le langage de chrétien évangélique, mais être nombriliste devant Dieu, pendant que Dieu est auxiliaire. Maintenant, cela définit l'Église contemporaine et la prédication contemporaine. Il ne s'agit que de vous et de votre confort. Il ne s'agit que de vous et de votre âme. Il ne s'agit que de vous, de votre apparence, de vous aider et de vous faire quelques encoches sur l'échelle du confort. J'ai fait beaucoup de lectures sur Jean Calvin, récemment parce que j'étais quelquefois à Genève, et j'ai pu, avec le regard de Jean, creuser un peu plus en profondeur dans certaines choses à Genève, qui révèlent la nature de l'homme, le caractère de l'homme. B.B. Warfield a dit de Calvin, et c'est probablement la plus définitoire de tout ce qui a été dit de Jean Calvin. B.B. Warfield dit de Calvin, « Aucun homme n'avait jamais eu un sens plus profond de Dieu que lui. Et c'est la raison pour laquelle le monde entier s'était tourné vers Jean Calvin. La puissance de cet homme était basée sur sa profondeur. C'est sa profondeur qu'il avait catapultée en un homme qui révélait les merveilles et la gloire de Dieu. C'est ce que dit Warfield dans son livre sur Calvin et Augustin. Et c'était vraiment la clé de la théologie de Calvin, sa théologie personnelle. La théologie réformée, sous l'influence de Calvin, s'empara des Écritures, tout d'abord, sola scriptura. Elle s'empara des Écritures et s'enracina et finit dans les plus hauts lieux. Quand vous vous retournez et vous vous demandez où trouver la plus profonde compréhension de la théologie, vous la voyez sortir de la loi réformée, n'est-ce pas? À quelle époque puis-je remonter pour trouver les plus hautes expressions de louange? Vous les trouvez au même endroit, n'est-ce pas vrai? Parce que c'est la profondeur qui crée la hauteur. Je viens d'écrire un article pour le Christian Research Journal de Hank Hanegraaff. Il sera certainement dans la nouvelle édition, ou peut-être la prochaine. J'en oublie le titre. Quelque chose au sujet des psaumes, des hymnes et de la louange. C'est un article qui expose la tragédie de comment la musique chrétienne contemporaine reflète l'approche insipide de la théologie. Toute la musique est faite de psaumes, de cantiques spirituels. Nous connaissons les psaumes, les cantiques sont des grands chants de témoignages. De toute la musique, les cantiques à eux seuls, ou peut-être que je ne dois pas dire à eux seuls, les cantiques sont essentiellement didactiques. Ils se focalisent sur Dieu. Ils se focalisent sur Christ. Ils se focalisent sur le Saint-Esprit. Ils ne se focalisent pas sur nous, et ils ont tendance à être instructifs, didactiques. Ils ont été remplacés dans le dernier siècle par des chants spirituels. Ils ont encore été plus profondément enterrés sous ce barrage infini de chants de louanges qui sont destinés à être comme un type de mantra hindou qui vous entraîne dans un état de semi-conscience que vous interprétez comme étant l'adoration. L'adoration est cognitive, et plus vous avez de la théologie dans votre expression, plus elle est l'adoration. Alors, quand vous vous retournez, vous réalisez que ces réformateurs n'étaient pas seulement de grands et profonds théologiens, mais aussi ils rédigeaient quoi? Ils écrivaient des cantiques. Martin Luther écrivait des cantiques. Ils écrivaient des cantiques. Parce que vous ne pouvez pas descendre sans monter. Si quelqu'un dans notre église vous dit « Vous savez, les gars, votre adoration est raide, lourde, et vous chantez tous ces vieux cantiques. Désolé, les amis, mais nous n'avons pas d'autre choix que de louer notre Dieu, et c'est une expression, c'est une réaction à ce que nous savons être vrai à son sujet, à cause de l'exposition à sa parole. Cette idée de venir à l'église et de tout faire superficiellement n'est simplement qu'un reflet du type d'enseignement que vous faites. Si les gens en sont satisfaits, c'est parce qu'ils sont ignorants. Si notre adoration est si superficielle, insipide, triviale, une adoration du type pop, peu importe comment on le désigne ailleurs, notre congrégation n'y prendra pas plaisir. Les gens protesteraient parce que ce n'est pas suffisant pour donner une expression à ce qu'ils connaissent dans leur tête. mais ils ne le savent pas. Ils ne sauront pas que cela leur manque. Alors, ils s'asseyent et chantent leur mantra, encore et encore. La raison pour laquelle Calvin avait une si grande perception de Dieu, une profonde perception de Dieu, c'est que son ministère entier était une explosion. Quand beaucoup de personnes pensent à Jean Calvin, elles pensent à ses instituts de la religion chrétienne, un manuel rédigé au début de sa vingtaine d'années et raffiné 5 fois tout au long de sa vie. Mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est qu'il était un exposant de la Bible. Il ne prêchait que l'exposition de la Bible, de 1536 à 1564 à Genève, avec un hiatus de 3 ans, lorsqu'il fut chassé de la ville. Il fut chassé en 1538 et il revint en 1541. Il dut aller à Basel et lorsqu'il y alla, afin de mieux exposer les Écritures, il passa ses 3 années à maîtriser l'hébreu. Pouvez-vous imaginer le fait d'être en exil et maîtriser l'hébreu tout seul? Parce qu'il savait que c'est ainsi que l'on apprend les Écritures. Il revint 3 ans plus tard et reprit au verset où il s'était arrêté quand il avait été expulsé 3 ans plus tôt. C'est vrai, il était infatigable. Si vous allez à la bibliothèque, regardez les commentaires de Calvin. Il couvre toute la Bible. De 1536 à 1564, exception faite de ces 3 années, il alla dans un petit auditoire, l'auditorium près de celui de Saint-Pierre, la grande cathédrale où il prêchait le jour du Seigneur et d'autres fois, mais tous les jours dans cet auditoire, il enseignait la parole de Dieu. Il avait 5 personnes assises sur la rangée de devant et il notait, telle une dictée, tout ce qu'il disait, parce qu'aucun d'eux ne pouvait entièrement tout noter. Les 5 ensemble pouvaient tout écrire, et c'est ce qui devint ses commentaires. R. L. Dabney, dans son livre sur l'éloquence évangélique, dit « Tous les premiers réformateurs, que ce soit en Allemagne, en Suisse, en Angleterre ou en Écosse, étaient des prédicateurs engagés, et leurs sermons étaient expositoires. Nous pouvons supposer avec certitude que l'instrumentalité à laquelle la puissance spirituelle de cette grande révélation était essentiellement due était la restauration de la prédication scripturale. Dabney dit, en d'autres termes, que la réforme est née de l'exposition de la Bible, vous voyez, et ce qui la déclencha, c'est qu'ils voyaient le livre comme étant la seule source de vérité divine, et avec cela, ils éliminèrent toute autre source d'autorité. Ils retournèrent au livre, et ils martelèrent sur le rocher jusqu'à le briser, et jusqu'à ce que l'eau de vie en jaillisse. Dabney poursuit en disant, « Une perversion de la chair est assurément suivie par l'apostasie dans l'Église. Observez. Vous vivrez assez longtemps pour savoir ce qui a été désigné comme l'évangélisme apostasié. Vous pervertissez la chair, vous ôtez la parole de la chair et vous égarez l'Église. » Dabney dit, « Et c'est très instructif de noter qu'il y a des phases par lesquelles la prédication est répétitivement passée, avec les mêmes résultats. La première est celle dans laquelle la vérité scripturale est fidèlement présentée dans un vêtement scriptural. C'est pour dire que non seulement toutes les doctrines qui relèvent réellement du système de rédemption révélé sont affirmées, mais aussi elles sont présentées sous ce vêtement et sous cette connexion par le Saint-Esprit, sans rien chercher d'autre de la science humaine. Cet état de la chair marque l'âge d'or de l'Église. La deuxième étape est celle de la transition. Dans cette étape, les doctrines enseignées sont toujours celles des Écritures, mais elles sont modelées pour se conformer à la dialectique humaine prévalant. C'est un livre âgé de 100 ans. La vérité de Dieu est maintenant séparée d'une partie de sa puissance sur l'âme. Une troisième étape est de voir à quel point non seulement les méthodes et les explications se sont conformées à la philosophie actuelle, mais aussi les doctrines elles-mêmes contredisent la vérité de la parole de Dieu. Le clergé a encore et encore fait ce chemin, avec le même résultat désastreux. Alors il dit, « Puissions-nous à jamais nous contenter de présenter la doctrine biblique sans altération? Vous ne pouvez pas y apporter des améliorations, parce que c'est ainsi que Dieu a choisi de la communiquer. Maintenant, nous sommes dans cette transition. Ne sommes-nous pas évangéliques? La doctrine chrétienne subsiste encore, mais personne ne veut la présenter telle que dans la Bible. La Bible constitue tout le contenu de notre prédication. Dieu a établi toutes ces vérités dans un contexte, dans des proportions et des relations qu'il savait convenir parfaitement à l'âme de l'homme, sous l'œuvre du Saint-Esprit. Aucune autre forme n'est aussi bonne, aucune autre forme ne lui est acceptable. L'utilisation d'autre chose que la parole de Dieu est une infidélité, et ce type de prédication engendre l'infidélité aux Écritures parmi ceux qui écoutent. Pouvez-vous le voir? si vous enseignez la vraie doctrine d'une perspective non biblique en vous servant de la raison, alors les gens apprendront que c'est par la raison que l'on parvient à la vérité, et vous leur aurez enseigné que cette voie est meilleure que la révélation biblique. Alors je reviens là où j'ai commencé. 2 Timothée 4:2. Que faut-il faire? Prêcher la parole, en toute occasion, favorable ou non. Les gens disent, mais qu'est-ce que cela signifie? Bien, je ne sais pas exactement ce que Paul avait en tête, mais je sais ceci. Il n'y a que 2 possibilités. Le temps est soit favorable, soit défavorable. Conclusion, c'est tout le temps. Et maintenant, le temps est défavorable. Mais cela ne change pas le commandement, n'est-ce pas? Maintenant, voilà la perspective. En fait, j'avais 7 points. Mais l'un de mes points est qu'il vaut mieux aller lentement que rapidement. C'est l'un de mes points, n'est-ce pas? Savez-vous pourquoi lentement vaut mieux que rapidement? Parce que lentement est plus profond que rapidement. Voilà pourquoi le séminaire n'est pas un cours qui dure le temps d'un week-end. Voilà pourquoi il faut 3, 4, 5, 6. Voilà pourquoi certaines de ces personnes étaient à l'école pendant 15 ans. Parce que lentement vaut mieux que rapidement. 2e point, la préparation. Vous commencez avec la perspective et après il vous faut passer à la préparation. Maintenant, les amis, si vous ne comprenez pas l'importance de la préparation, je ne sais pas ce que je dois vous dire pour que vous le compreniez. Je vous ai dit que vous devez être en mesure de dire aux gens ce qu'il y a dans le livre, et en toute franchise, il vous faudra de la préparation, n'est-ce pas, puisque toute vraie prédication doit être expositoire. Le prédicateur est appelé à étudier pendant la préparation. Je vous dirai ceci. J'ai eu 61 ans en juin dernier, et j'ai passé le plus gros de ma vie depuis ma sortie du séminaire. J'ai passé le plus gros de ma vie à étudier, et j'étudie encore parce qu'il n'y a pas d'autre voie. Je suis allé au séminaire pour acquérir des outils afin de passer une vie entière à étudier. L'étude est critique. La Bible est le champ que vous cultiverez toute votre vie. C'est la mine que vous allez creuser toute votre vie. Et cela demande un engagement radical à la diligence. Vous devez prêcher le vrai sens des Écritures. Voici une petite pensée pour vous. Le sens des Écritures. C'est les Écritures. Le sens des Écritures. C'est les Écritures. Vous devez prêcher leur sens tel que prévu par Dieu. Et il a prévu qu'elles disent une seule chose, et vous devez discerner ce qu'est cette chose. Je clôture avec ceci. Dabney dit, le prédicateur est un héros. C'est la parole de Dieu qui lui est confiée, comme instrument d'annonce, si sa tâche est de donner et de faire l'éloge du message de Dieu. Quel droit a-t-il de le changer, ou de le présenter autrement que ce qu'il est, en plus du risque de donner une direction fatale et spécifique à certaines âmes? Dans la perversion de cette proposition d'écriture spécifique, il risque de confondre les pensées de ceux qui écoutent dans leurs efforts de comprendre la parole et cultivent des sentiments irrévérencieux envers l'autorité. Vous ne pouvez pas dire aux gens que la Bible est autoritaire et ensuite vous vous en servez bon gré mal gré. Elle doit parler spécifiquement. Et Dabney a raison, vous cultiverez des sentiments irrévérencieux vis-à-vis de l'autorité de la Bible si vous êtes inepte dans son interprétation. La fausseté, écrit-il, de cet homme est remplie d'impiété, celui qui se tient sur un lieu sacré pour déclarer le message de Dieu, et dit que le Saint-Esprit a dit ce qu'il n'a pas dit. Vous ne devez pas vouloir le faire. Je veux dire que c'est une façon de voir cela, c'est-à-dire ne vous tenez jamais sur une chaire pour dire ce que le Saint-Esprit n'a pas dit. Mon but est de vous impressionner, dit-il, avec une crainte solennelle de prendre la liberté pour commenter la parole. J'aimerais que vous ressentiez que toute signification du texte, autre que ce que Dieu avait expressément l'intention de communiquer, est un fruit défendu pour vous, peu importe combien cela peut être plausible et attractif, un fruit que vous n'osez pas toucher en péril d'un péché effrayant. Vous voyez, le sermon de Dieu est de loin plus puissant que le vôtre. Assurez-vous de communiquer le sien. Prions. Nous sommes tous émus par ceci, moi y compris. Nous le comprenons. Nous comprenons la perspective. Nous comprenons l'appel à la préparation. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Seigneur, donne-nous cette grande confiance, confinée en ta parole, pour dire ce qu'elle dit, ce qu'elle signifie, et ne pas aller plus loin, d'enseigner la doctrine biblique dans son exactitude, parce que tu l'as ainsi destinée pour faire ton œuvre dans les âmes des hommes et des femmes. Suscite de puissants hommes de la vérité, parmi nous tous, pour ta gloire, au nom de Christ. Amen.
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, Connectez-vous à une grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'études de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.